prévenir un certain nombre de risques en vous disant pour commencer qu'il va vous falloir une certaine patience, qu'il va vous falloir une certaine attention si vous voulez percevoir la communication que je vais vous faire cet après-midi. Il m'a été accordé 45 minutes, d'aucuns trouveront que c'est bien long, et je m'excuse donc de ce qui pourra vous paraître long, mais il nous faut méditer avec sérieux sur l'Église, et je dirais même sur le mystère de l'Église. De même qu'il y a un mystère du royaume de Dieu dont nous entretient le Nouveau Testament, il y a bel et bien un mystère de l'Église. J'entends le mot mystère au sens qu'il a dans le Nouveau Testament. Le mot grec est à l'origine du mot français. En grec, on dit mysterion. Le mystère est un décalque du mot grec. Qu'est-ce qu'un mystère selon le Nouveau Testament? C'est une réalité très importante et très belle qui a été longtemps ignorée, voilée, cachée, et puis que révèle la parole de Dieu. Et l'Église est chargée d'être dispensatrice des mystères de Dieu. Je m'en tiendrai cet après-midi, car cela serait beaucoup trop long, à l'un des aspects du mystère de l'Église. L'Église envisagée comme celle de la terre et lumière du monde. Je signale en passant, mais je ne traiterai pas de la chose, qu'on pourrait parler d'autres aspects du mystère de l'Église. L'Église comme colonne et appui de la vérité, l'Église comme épouse de l'agneau, l'Église comme corps du Christ, l'Église comme maison de Dieu ou temple du Saint-Esprit, l'Église comme mère des fidèles. Mais, je le répète, je ne traiterai cet après-midi que de l'Église comme celle de la terre et lumière du monde. C'est déjà beaucoup. En exergue de ma communication, je place ces paroles de Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une cité située sur une montagne ne peut être cachée. Une lampe n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau, mais elle est placée sur son support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière brille devant les hommes, de telle manière qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et à côté de cette parole de Jésus dans le sermon sur la montagne, je place ces paroles du Deutéronome au chapitre 4, vous observerez et mettrez en pratique toutes les prescriptions et ordonnances que Dieu a commandées, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent, Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes comme toute cette loi? Ces paroles, celles de Jésus comme celles de Moïse, sont tout à la fois une promesse et un ordre. Je dis une promesse car dans son alliance, son mariage avec son Église, sa nation, son épouse, le Seigneur lui déclare qu'elle est et qu'elle sera au long des siècles celle de la terre et lumière du monde. Non pas en elle-même, bien sûr, mais dans sa communion avec le Seigneur, à cause du Seigneur et par le Seigneur. On peut dire qu'à travers les siècles, le Seigneur bâtit, construit son Église comme une cité sur une montagne pour éclairer le monde. Je vous cite quelques paroles du prophète Ésaïe au chapitre 60. « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi sa gloire apparaît, et des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais le Seigneur sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta splendeur, ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne se retirera plus, car le Seigneur sera ta lumière à toujours. » Et l'Apocalypse reprend le même thème, citant d'ailleurs ce passage d'Ésaïe que je viens de lire, parlant de l'Église, l'Apocalypse nous dit « Un des anges me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car là il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc vous le voyez, quand Jésus parle de l'Église comme lumière du monde, il prend un thème prophétique, je veux dire par là un terme dont il est question dans les prophètes, et il prend même un thème apocalyptique. Jésus prend un des thèmes constants de la Sainte Écriture. Oui, l'Église a pour vocation d'être cité sur la montagne, lumière du monde, brillant devant les hommes de telle manière qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. Telle est la vocation, la direction, j'allais dire la direction historique que Dieu donne à sa Sainte Église. En effet, en plus d'une affirmation, les paroles de Jésus sont bel et bien en ordre. En plus d'une promesse, elles sont un commandement. Autrement dit, il est ordonné à l'Église et aux chrétiens fidèles en elle de vivre de telle manière qu'un jour les hommes et les nations se convertiront en grand nombre à la vraie foi et glorifieront Dieu. La vocation de l'Église n'est rien d'autre que de convertir les nations et d'en faire des disciples, afin que le monde soit reformé et reconstruit selon la totalité du conseil de Dieu. Et cette vocation de l'Église, ces ordres donnés par Jésus, sont comme la préfiguration, le profil voulu par Dieu du futur. Dieu ne veut rien moins que le salut du monde. C'est pour le salut du monde que le Fils éternel du Père s'est incarné, est mort sur la croix et est ressuscité. Le Dieu vivant veut que les nations soient disciplées. Nous n'avons pas de verbe français correspondant au verbe grec. Faire des disciples et atténuer le sens. Il est dit, selon l'ordre de Jésus, que toutes les nations doivent être disciplées, doivent être baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus ordonne à l'Église d'enseigner aux nations à garder tout ce qu'il leur a prescrit. Lumière du monde, l'Église est aussi appelée à être sel de la terre. C'est l'Église de Dieu qui doit agir dans le monde comme un agent de conservation et de préservation, empêchant le péché d'être assez intensif pour tout pourrir et tout putrifier. C'est l'Église de Dieu qui doit assaisonner le monde et lui donner, malgré le péché, un certain goût de vivre, un certain goût d'existence. Seulement, et c'est l'aspect négatif que je veux souligner en passant, Jésus avertit d'un danger terrible, tant pour l'Église que pour le monde. Ce danger surgit et se développe à certaines époques de l'histoire, lentement ou soudainement, dès lors que l'Église, celle de la terre, perd sa saveur, dès lors que l'Église, lumière du monde, se camoufle ou se met en veilleuse sous le boisseau. Jésus condamne l'inefficacité de l'Église. Autrement dit, son incapacité à rester sel et lumière. Son inutilité, dès lors, pour la glorification de Dieu et le bien des hommes et des nations. Une bonne question pour l'Église et pour les chrétiens. Est-ce que je garde ma saveur de sel? Est-ce que je mets en valeur la lumière que je dois mettre en valeur? Ou bien, est-ce qu'au contraire, j'ai perdu ma saveur? J'ai occulté la lumière? Souvenons-nous que toujours, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est une affirmation de l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 17. Notre Seigneur dit d'ailleurs étrangement, peut-être l'avez-vous remarqué au passage, « Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ?» Tout au long de l'Écriture, au sel chargé d'un sens positif, s'oppose un sel chargé d'un sens négatif. Le sel est ce qui préserve, ce qui donne du goût, ce qui sauve, mais le sel est aussi ce qui juge, ce qui condamne, ce qui perd. Quand l'Église, par infidélité et désobéissance, n'est plus le sel positif qu'est la vocation d'être, Dieu la sale en faisant passer sur elle son jugement et sa condamnation. Tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel, dit Jésus, ajoutant, si le sel devient non salé, avec quoi sera-t-il assaisonné? Sous-entendu, sinon du jugement de Dieu. L'Église apostate, comme la femme de Lot désobéissante qui regarda en arrière peut n'être plus qu'une statue de sel. Mais alors c'est Dieu qui l'a salée. Si le sel perd sa saveur, l'Église est salée. Elle est changée en statue de sel, elle est immobilisée, elle ne remplit plus sa fonction, sur elle passe le jugement de celui dont le psaume 107 dit qu'il change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée et le pays fertile en pays salé. Songeons à Sodome et songeons à la mer morte. Lorsque l'Église perd sa saveur et cache la lumière, au lieu de transformer le monde autour d'elle, ce qui est sa mission, c'est le monde qui la transforme, ce qui est son déshonneur. L'Église et les chrétiens deviennent alors plus ou moins passifs devant un monde qui est changé en cauchemar par ceux qui rejettent le Jésus-Christ et sa parole. L'Église et les chrétiens se contentent plus ou moins d'être en position défensive quand ils ne se retirent pas en arrière, loin des vrais combats comme font les déserteurs. Ou encore, l'Église se replie sur elle-même sans plus aucune vision de conquête et de victoire. Mais je ne veux pas insister plus longtemps là-dessus. Ce serait insister sur une situation que nous connaissons trop en France et que vous connaissez, je crois, aussi à Genève. Ce qu'il faut, ce que le Seigneur nous ordonne, c'est entreprendre la reformation, la reconstruction nécessaire. Je me contenterai de souligner 4 points. 1. Nous devons retrouver la certitude de la royauté présente et terrestre de Jésus-Christ. 2. Nous devons recevoir une vision de conquête et de victoire en tout domaine. 3. Nous devons sonder la Sainte Écriture en ne lâchant pas l'indispensable présupposition qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et 4, nous devons reconnaître la validité actuelle de la loi ou du droit biblique. Je vais reprendre ces 4 points. S'il y a parmi vous déjà quelqu'un de découragé à l'annonce qu'il va y avoir 4 points, qu'il se sente la pleine liberté soit de se retirer, soit de dormir. Premier point, la royauté présente et terrestre du Christ. La déclaration majeure de notre Seigneur au moment de son ascension à la droite du Père a généralement, depuis 2 siècles, été minimisée comme si elle ne visait que le salut des âmes individuelles. Mais au premier siècle de l'histoire de l'Église, comme au plus beau siècle du Moyen Âge, comme au XVIe et XVIIe siècle dans les Églises de la Réforme, les chrétiens entendaient gagner au Christ, Seigneur, Sauveur et Roi, non pas seulement, bien qu'en priorité, les âmes individuelles, mais les nations, avec leur société au pluriel et leur culture au pluriel. Les différents domaines de l'existence personnelle et sociale des hommes devaient être conquis et entraînés derrière le char triomphal du Christ. Les réformateurs ont toujours eu cette certitude-là. Ce que le Christ et sa parole ordonnent, c'est la transformation de la terre et du monde, la transformation de la culture et de la société. Et comme tout progrès individuel et social n'est pas automatique, en quelque sphère que ce soit, il y faut la foi. La foi au sens subjectif, c'est-à-dire la foi par laquelle on croit, et la foi au sens objectif, c'est-à-dire la foi qui est crue, la foi transmise au saint une fois pour tout. Et la foi au sens objectif, la foi que nous devons croire, la foi qui nous est révélée, la foi au sens objectif, c'est la révélation de Dieu, la parole de Dieu, la parole évangile de Dieu et la parole loi de Dieu. La foi au sens subjectif, notre foi, c'est la foi par laquelle nous nous en remettons à Dieu dans l'espérance, dans l'amour, dans la repentance, dans la prière. Et tout va dépendre de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est la réponse alliantielle de Dieu à notre obéissance alliantielle. Vous pouvez lire à cet égard le magnifique chapitre 28 du Deutéronome, au cours duquel il y a 14 versets qui annoncent les bénédictions qui seront données à l'Église si elle est fidèle et les malédictions qui surviendront à l'Église si elle est apostate. Vous pouvez d'ailleurs vérifier qu'il en est de même dans la nouvelle disposition de l'Alliance en relisant les lettres aux sept Églises de l'Apocalypse. Car vous trouvez dans les sept lettres de l'Apocalypse exactement les mêmes bénédictions promises à la fidélité et les mêmes menaces posées sur l'infidélité. Et c'est là qu'il y a l'importance du « sur la terre », tant dans le « Notre Père » dont j'ai parlé ce matin, que dans l'ordre majeur de Matthieu 18. Vous vous souvenez que c'est un ordre majeur magnifique. D'abord l'affirmation capitale, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, un ordre, allez, faites des disciples de toutes les nations, disciplez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et puis enfin, la promesse que l'Église fidèle peut recevoir dans son cœur, même au moment les plus troubles de son histoire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'en finirait pas de méditer sur ces versets finaux et capitaux de l'Évangile selon saint Matthieu. Depuis son ascension, Jésus-Christ siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il est roi dans le ciel et sur la terre. Le prophète Daniel avait d'ailleurs annoncé l'arrivée du roi et du royaume. D'une part, au chapitre 2 de son livre, lorsqu'il reçoit la vision de l'arrivée du royaume éternel de Dieu durant le quatrième empire, c'est-à-dire durant l'Empire romain, après celui de Babylone, celui des Mèdes et des Perses et celui de la Grèce. Daniel déclare que dans ce temps-là, je cite, « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Et d'autre part, Daniel, au chapitre 7, reprend la même chose lorsqu'il annonce l'ascension et l'intronisation du Christ. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme, il s'avança vers l'Ancien des Jours, on le fit approcher de lui, et il lui fut donné la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination sera une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » On fait quelquefois un contresens formidable au sujet de ces versets. Il ne s'agit pas du tout de Jésus descendant sur les nuées du ciel vers la terre, mais de Jésus s'avançant vers l'Ancien des Jours sur les nuées du ciel. Il s'agit là non pas du retour en gloire de Jésus-Christ, mais de la montée royale de Jésus-Christ vers le Père au jour de l'Ascension. Sa royauté ne sera jamais détruite. Il y a une expression abominable qui court les rues aujourd'hui, et même, et surtout, dans la bouche de chrétiens. On serait dans une ère post-chrétienne. Vous savez, il faudrait que je vous relise ici des pages magnifiques de Peggy à ce sujet. De Charles Peggy, le grand poète français, qui est tombé au champ d'honneur en 1915. C'est extraordinaire. Peggy, déjà, avant la guerre de 1914, dit « Il y a des gens qui parlent d'une ère post-chrétienne. » Alors que la Bible nous affirme que le royaume du Christ ne passera jamais, qu'il subsistera éternellement. La domination du Christ est une domination éternelle. Nous ne sommes pas dans une ère post-chrétienne. Il n'y aura jamais d'ère post-chrétienne. La dernière ère du monde, c'est l'ère chrétienne. Et nous sommes dans l'ère chrétienne. Seulement, il y a des chrétiens, des fétistes, qui se figurent qu'on serait entré dans une ère post-chrétienne parce qu'en ce moment, nous traversons une passe difficile. Mais attention, nous traversons une passe difficile. Pourquoi ? Par la faute de l'Église. Par la faute de l'infidélité et de l'apostasie de l'Église. Mais il y a eu des époques comme ça déjà, dans les siècles anciens. Et l'Église est repartie, et l'Église repartira. Il est très important de reprendre les trois choses dont j'ai déjà parlé à ceux qui m'ont écouté ce matin. Le règne du Christ a été établi définitivement depuis l'Ascension. C'est un règne qui avance progressivement au long des siècles, tant de manière extensive que de manière intensive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, avec des hauts et avec des bas. Nous sommes dans un bas. C'est malheureux pour nous à certains égards, mais c'est passionnant à d'autres égards. Mais il y a une avancée progressive du royaume de Dieu au long des siècles. Et finalement, au dernier jour, au jour de l'apparition glorieuse du Christ, alors le royaume du Christ sera finalement et pleinement et complètement réalisé. Nous avons d'ailleurs un enseignement de Jésus à ce sujet qui va tout à fait dans le sens de notre thème d'aujourd'hui. Il s'agit au corps de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 31 à 33. Je lis. Jésus leur proposa une parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Voilà. Le royaume a été semé, il a été établi, et il a été établi sur la terre, parce que Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, est roi sur la terre aussi. Voilà, c'est établi. Et puis alors, progressivement, au long des siècles, le royaume des dieux grandit, avec des reculs de temps en temps, mais ça progresse quand même. Et puis finalement, il y aura un arbre magnifique où les oiseaux du ciel viendront habiter dans ses branches. C'est une figure de beauté. Et Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume, ça ressemble un peu à l'histoire du sel. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. Voilà. Alors nous devons prendre conscience de cela. Le règne présent du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un règne futur, glorieux, plus complet. Mais il y a déjà un règne présent du Christ. Les pères de l'Église en étaient convaincus. Les réformateurs en étaient convaincus, mais surtout avant eux, les évangélistes et les apôtres en étaient convaincus. D'où, deuxième point, une vision de conquête et de victoire. Avec un tel chef, Jésus-Christ roi, l'Église ne peut qu'être assurée de conquérir et de vaincre. J'ajoute, sauf si elle apostasie, sauf si elle devient infidèle et désobéissante. Mais lorsque l'Église est fidèle et obéissante, elle part en vainqueur et pour vaincre. Et depuis des décennies, s'est établie dans l'Église une sorte de vision défaitiste. Oh, les réformateurs, si nous voyez avec cette vision... Ah, les pères de l'Église, si nous voyons assez que télévision, et surtout les apôtres, et pour ne pas parler de Jésus-Christ lui-même. Comme si nous devions croire davantage à la dépravation du genre humain, qui est certaine, qu'à la souveraineté du Seigneur Sauveur. Comme si nous devions croire davantage au pouvoir qu'à la créature irrégénérée de résister à la parole de Dieu, qu'au pouvoir qu'a le Seigneur Tout-Puissant de changer le cœur de l'homme à sa volonté. Comme si Jésus-Christ n'était pas déjà vainqueur du diable, du péché et de la mort, et comme s'il n'appelait pas son Église et les siens à être plus que vainqueurs avec lui. L'affirmation d'Apocalypse 21, 4 et 5, les premières choses ont disparu, voici je fais toutes choses nouvelles, n'est absolument pas une affirmation futuriste. Car c'est une reprise de l'affirmation de Paul dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La seule différence réelle entre le thème de 2 Corinthiens 15 et celui d'Apocalypse 21, c'est que Paul parle de la rédemption individuelle, tandis que Jean parle de la rédemption communautaire. Mais pour l'un comme pour l'autre, tout a déjà changé, la restauration a déjà commencé. Et quand l'Église et les chrétiens, au contraire, jouent battus, je dirais, ils vont forcément être battus et reculés. Pourquoi l'Église recule-t-elle en certains lieux et à certains moments? C'est parce qu'elle apostasie. Je dirais un peu vulgairement, c'est parce qu'elle se dégonfle. Je dirais, pour reprendre mon thème biblique, c'est parce qu'elle n'est plus qu'un sel qui a perdu sa faveur ou qu'elle n'est plus qu'une lumière cachée sous le boisseau. Mais dès lors que l'Église et les chrétiens fidèles reprennent cœur, ils redécouvrent une vision de conquête et de victoire. Et c'est pour l'Église non seulement un temps d'édification nouvelle, de reconstruction, mais c'est un temps de mission et d'évangélisation. L'Église et les chrétiens, même dans les temps les plus difficiles, et nous sommes en un temps difficile, doivent jouer conquête et victoire. Au fond, reprenons l'image militaire qu'emploie la Bible. Celui qui joue battu ne peut qu'être battu. C'est obligé. Une église qui joue battue, elle est déjà battue au départ, précisément parce qu'elle joue battue. Tandis que lorsque l'église se fonde à nouveau sur la puissance de son Seigneur, sur la puissance de la parole de Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit, elle joue à nouveau, comme elle le doit, conquête et victoire. Et c'est le sens profond du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus optimiste de tout le Nouveau Testament. Il a été écrit avant l'an 70, ou plus tard en l'an 68, et les chrétiens connaissaient une persécution terrible, une double persécution, une persécution de la part des Juifs et une persécution de la part de l'Empire romain, les deux bêtes de l'Apocalypse. Et tout le but de Jean avec l'Apocalypse, c'est de réconforter l'Église. Elle est dans un temps difficile, elle est dans un temps dramatique. Elle est dans un temps d'ailleurs qui apparemment va devenir plus dramatique encore, puisque en l'an 70, deux ou trois ans après la rédaction de l'Apocalypse, c'est la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple, et la dispersion non seulement des Juifs, mais la dispersion aussi des chrétiens. D'ailleurs, les chrétiens qui avaient bien écouté Jésus savaient que quand un certain nombre de choses commenceraient à arriver, il fallait quitter Jérusalem au plus vite, parce que ça allait être le jugement de Dieu sur Jérusalem, ça allait être une catastrophe terrible. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Il n'y a rien de tel que de lire concurremment l'Apocalypse et l'histoire des guerres juives de l'historien juif Joseph, qui était un écrivain du 1er siècle. Ça a été écrit à peu près au même temps. Vous retrouvez à peu près les mêmes expressions dans l'Apocalypse et dans le livre de Joseph. Et Joseph montre que ça a été l'abomination de la désolation lorsque les troupes du général romain Titus se sont emparés de Jérusalem et ont commencé par introduire une statue de l'empereur dans le Saint des Saints du Temple. Abomination de la désolation, c'est le tout. Donc, les premiers chrétiens sont à une époque tragique, terrible. Et c'est le moment où Jean leur envoie l'Apocalypse. L'Apocalypse qui leur montre que Jésus-Christ est roi. Et que même si pour un temps, ça a l'air d'être difficile et de ne pas marcher, ça n'est que pour un temps parce que ça va reprendre et c'est pas les forces du judaïsme et les forces de l'Empire romain qui vont l'emporter, mais les forces de l'Église. Et c'est ce qui arrivera. Et on retrouvera la même situation au temps d'Augustin. Au temps d'Augustin, il y a eu un moment terrible, c'est lorsque les barbares se sont emparés de Rome au début du 5e siècle. Et Augustin a écrit son livre « La cité de Dieu » pour dire aux chrétiens: mais vous avez l'air de dire que tout va devenir abominable parce que Rome est tombée, mais pas du tout, pas du tout. L'Église doit partir en vainqueur et pour vaincre. Et ça a été la même chose lorsque, par exemple, à la Réformation, il y avait une situation tragique, il y avait une pourriture dans l'Église dont nous n'avons pas idée. Calvin, qui dans l'institution chrétienne vante les anciens moines, étant des moines des tout premiers siècles, il nous décrit les moines de son temps avec une vérité et quelquefois une crudité incroyable. C'est le temps alors de la désolation? Non! Il faut que l'Église reparte en vainqueur et pour vaincre. Et c'est ça qui a fait la réforme. Eh bien, je dirais, il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans des temps difficiles. Est-ce que ça veut dire que c'est le temps du repliement? Est-ce que ça veut dire que c'est le temps du défaitisme? Est-ce que ça veut dire que... Non! Chaque fois qu'un jugement de Dieu est en train de passer sur son Église d'abord à cause de son infidélité et sur le monde par contre-coup en même temps, c'est le moment pour les fidèles de reprendre espoir. Voilà. Alors, c'est important cela. Il faut écouter celui qui nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde !» et ne pas écouter la voix du tentateur qui nous dit « Soyez affolés, car le diable est en train de vaincre. » Qui est le vainqueur? Qui est le vrai prince de ce monde? Celui qui se prétend le prince de ce monde? Ou celui qui est vraiment le roi du monde et qui, depuis l'ascension, siège à la droite du Père sur son trône royal. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À Thessalonique, lors du passage de Paul et de Silas, les premiers chrétiens furent justement accusés, parce qu'ils proclamaient Christ roi, de mettre sans dessus dessous la terre habitée. Actes 16, 6, 7. Aujourd'hui, en particulier dans les pays d'Europe, nous devons cesser d'avoir un esprit mauvais de compromis et de recul. Jésus a dit, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Vous connaissez tous cette parole. Là aussi, un contresens énorme. Contresens énorme. Je vous pose la question. Qui est-ce qui est à l'offensive dans l'histoire? Les portes de l'enfer? Où est-ce que vous avez eu des portes passées à l'offensive? Quand Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », ça veut dire que Jésus bâtit son église en la faisant passer à l'offensive et en lui faisant renverser les portes de l'enfer. Oui, méditez là-dessus. Je vous pose la question, il y a l'église et il y a des portes. Qu'est-ce qui est à l'offensive? Et qu'est-ce qui doit l'emporter? C'est les portes de l'enfer qui vont prévaloir. Non, Jésus l'annonce. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre une offensive de l'Église fidèle. Il y aura des moments dramatiques, mais c'est lorsque l'Église infidèle se sera laissée impressionner par les portes de l'enfer. Parole de Jésus. Et curieusement, trop de chrétiens entendent la dernière parole de Jésus avant l'ascension, dont j'ai parlé, comme s'il avait dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et très peu de pouvoir, ou même aucun pouvoir, ne m'a été donné sur la terre. » C'est un peu fort. Et curieusement, trop de chrétiens font un terrible contresens avec la parole de Jésus « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Comme si elle signifiait « Je ne règne pas » dans ce monde, alors qu'est employée la préposition « ec » ou « ex » devant une voyelle, qui signifie que le royaume du Christ n'a pas une origine terrestre, n'a pas une origine à partir de ce monde. Le royaume du Christ dans le monde, ici-bas, sur la terre, vient d'une initiative du ciel et non pas du monde, de Dieu et non pas des hommes, du Christ roi à la droite du Père, et non pas d'une puissance terrestre quelle qu'elle soit. Autrement dit, l'Église et les chrétiens, tout au long de l'histoire, sont bel et bien dans le monde, mais ils ne tirent pas, ne reçoivent pas leur vie du monde, mais de Dieu et du Christ présentement céleste. C'est important, ça aussi. Moi, je suis toujours frappé de la multiplicité des contresens énormes que d'aucuns chrétiens font en lisant leur Bible. Ils y lisent le contraire de ce qui est dit. Le royaume du Christ est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde, puisqu'il vient d'en haut. Il vient du Christ roi, à la droite du Père. Alors le jour où on comprend ça, et c'est le sens du texte, parce que, en français, évidemment, n'est pas de ce monde, de, on ne voit pas qu'il y a le ex qu'il y a dans le grec. Hein? Le royaume du Christ ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut, mais il vient d'en haut sur la terre. L'Église et les chrétiens n'ont pas à se conformer au monde, mais à conformer le monde à la parole de Dieu. L'Église et les chrétiens n'ont pas à vivre selon les principes élémentaires du monde, mais selon la parole de Dieu. Car, précisément, les armes de l'Église et les armes du chrétien ne sont pas des armes que l'Église et les chrétiens peuvent recevoir de la terre, peuvent ramasser par terre, mais ce sont des armes spirituelles qui leur est données du ciel, de l'Esprit-Saint, de Jésus-Christ, pour pouvoir mener leur combat victorieux sur la terre. Oui, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, Mais c'est pour ça que sur la terre, elles sont des armes puissantes pour renverser les forteresses et pour chasser l'ennemi. Nous ne sommes pas des chrétiens qui doivent être défaitistes et apeurés, fuyant devant un ennemi qui serait vainqueur, mais sous un capitaine qui est Jésus-Christ, sous un roi qui est Jésus-Christ, nous prenons en main les armes spirituelles et d'abord l'épée de la parole. Et nous pourchassons l'adversaire et nous enfonçons les portes de l'enfer et nous combattons victorieusement. Il doit en être ainsi dans notre vie individuelle de chrétien, dans un combat de sanctification toujours plus poussé, comme il doit en être dans le combat de l'Église. Bien sûr, il n'y aura de perfection de victoire qu'au-delà de notre mort personnelle, et il n'y aura de perfection de victoire qu'au retour en gloire de Jésus-Christ. Mais, en attendant, nous combattons en vainqueur et pour vaincre. Je suis obligé ici, sans pouvoir développer la chose, et vous le pardonnerez, c'est que l'Église est très très loin d'avoir achevé ses conquêtes et sa victoire ici-bas sur la terre. Je vous donne qu'un exemple, mais il y en aurait d'autres à donner. Selon le chapitre 11 de la lettre de saint Paul aux Romains, l'Église verra un jour la conversion d'Israël à Jésus-Christ. Je ne dis pas de l'État d'Israël, je dis du peuple d'Israël. Saint Paul prophétise la conversion d'Israël. Voilà, nous en sommes encore loin. Mais deuxièmement, le même chapitre de 11 de la lettre aux Romains de Paul nous dit que l'Église vivra alors, après la conversion d'Israël, comme une vie d'entre les morts, comme une résurrection d'unité, de sainteté, de fidélité, le fils aîné ayant retrouvé sa place à la table de famille. Quand un reste fidèle d'Israël est devenu chrétien, avec les apôtres, avec les disciples, avec les femmes, avec la Vierge Marie, mère de notre Seigneur, autour de Jérusalem qui existe encore, il y a une unité de l'Église. Qui dit nation dit pluriel et dit dispersion. Tandis qu'Israël, Israël, je parle de l'Israël fidèle, fidèle aux prophéties de l'Ancien Testament, fidèle à Jésus-Christ qui en est l'accomplissement. Alors quand Israël, le fils aîné, sera revenu à la table de famille, quand sera-ce ? Je n'en sais rien. Le problème n'est pas là. Je ne sais pas non plus l'heure de ma mort, qui est probablement prochaine, mais j'en sais rien. Le problème n'est pas là. Le problème, il est simplement qu'il y a une vision d'espérance, de triomphe de l'Église sur la terre. Non pas de triomphe complet, hein, pas de problème. De même qu'il n'y a jamais un triomphe complet de sanctification sur la terre. Et vous savez que le perfectionnisme sur la terre a toujours été une hérésie, une erreur. Il n'y a pas de perfection sur la terre. Et il n'y aura pas une perfection non plus de l'Église sur la terre. Mais il y aura néanmoins sur la terre une Église comme remise en route d'entre les morts, avec le fils aîné Israël. Relisez, relisez le chapitre 11 des Romains. Qu'est-ce que nous sommes, nous, après tout ? Nous, à part une ou deux exceptions, peut-être ici, nous ne sommes pas d'origine juive. Nous sommes originaires des nations. Or, en tant que tels, qu'est-ce que nous sommes dans l'Église ? Nous sommes des pièces rapportées. Nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. Et saint Paul le dit, si nous, qui sommes des nations, nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël, à combien plus forte raison les branches qui pour un temps ont été retranchées, Israël qui pour un temps a été retranché, quand il sera greffé à nouveau sur son propre olivier, sous-entendu, on verra ce qu'on verra. Ça va être formidable. Et saint Paul dit, ce sera une vraie vie d'entre les morts. Donc, nous verrons, enfin nous verrons, moi je ne verrai pas, mais l'Église, qui dure, elle, l'Église verra se réaliser l'équation mystérieuse selon laquelle, en Christ, Israël plus les nations égale un. Formidable. C'est une équation que vous ne trouverez pas dans le livre de mathématiques, mais c'est une équation biblique. Israël plus les nations égale un en Christ. Eh bien, un jour, on verra ça sur la terre. Et ce sera formidable. Et c'est aussi dans ce but-là que nous combattons. 3. L'Écriture sainte, parole infaillible de Dieu. Je ne vais pas insister longuement là-dessus, parce que je pense que nous tous qui sommes ici, nous sommes au clair sur ce point. Ce que je voudrais dire seulement sur ce troisième point, c'est que nous devons bien voir que l'Écriture sainte ne doit pas être, j'allais dire, théoriquement, pour nous, la parole de Dieu. Elle doit l'être pratiquement et dans tous les domaines. Vous savez, une vieille expérience, puisque je suis vieux, une vieille expérience dans l'Église m'a appris qu'on pouvait professer et croire au fond de son cœur que la Bible était la parole de Dieu et ne pas tenir la parole de Dieu dans le concret, comme ce qu'elle est. J'ai entendu, je le disais au cours du repas de midi, du pique-nique de midi, j'ai connu des pasteurs libéraux qui, parce qu'ils étaient fidèles à leur texte, prêchaient, sans le croire et sans le vouloir, la parole de Dieu. Et j'ai connu inversement des pasteurs, tout ce qu'il y a de plus évangélique, qui partaient d'un texte de la Bible pour raconter des choses qui leur tenaient à cœur, mais qui n'avaient plus rien à voir avec leur texte. C'est grave, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la Bible pour la parole infaillible de Dieu, ce qu'elle est, en vérité. Eh bien, ça veut dire, dans le concret de la vie de l'Église, dans le concret de la vie dans la société, dans le concret de la vie professionnelle, dans le concret du mariage, dans le concret de la famille, dans le concret de la cité, recevoir la Bible comme telle, l'autorité infaillible. Vous savez, on est là entre amis, je vous dis ce que je crois, à vous ensuite, à la lumière de l'Écriture sainte, de voir si ça tient ou pas. Mon quatrième point, c'est la validité actuelle de la loi ou du droit biblique. L'une des raisons profondes de l'affadissement du sel de la terre et de l'occultation de la lumière du monde, c'est le trop peu de cas que l'Église a fait de la loi ou du droit biblique. Alors que Jésus a dit, juste à la suite de son affirmation sur l'Église, sel et lumière, alors que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, il ne passera pas un iota. En hébreu, on aurait dit un iode. C'est la plus petite lettre de l'alphabet grec, le iota, et le iode, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. En vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, il ne passera pas un seul iota, un seul trait de lettre de la loi. Et celui qui mettra en pratique et enseignera l'un de ses plus petits commandements, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et inversement, celui qui ne mettra pas en pratique et n'enseignera pas l'un des plus petits commandements, celui-là sera appelé petit dans le royaume des cieux. Et vous savez que Paul a dit aussi, la loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Alors que Jésus a dit qu'il ne passera pas un trait de lettre de la loi, et alors que Paul a dit que la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon, l'Église, au long des siècles, et très particulièrement en ce seconde partie du XXe siècle, n'a pas cessé d'être marquée par l'antinomisme. L'antinomisme, c'est très simple. Ça vient de deux mots grecs, anti qui veut dire contre, et nomos qui veut dire loi. L'antinomisme, c'est une attitude contre la loi, une attitude de mépris de la loi, une attitude de rejet de la loi, ou une attitude même déjà de minimisation de la loi. Dès que sa loi, ou telle partie de sa loi, est comme suspectée, Dieu n'est plus glorifié comme il doit l'être. La loi de Dieu est le manuel pour la vie des hommes, pour le comment vivre. Qui nous dira comment vivre si ce n'est l'Esprit Saint nous révélant le sens de la loi de Dieu et établissant cette loi de Dieu avec toute sa force dans le fond de notre cœur jusqu'à ce que finalement la loi de Dieu soit comme inscrite dans notre cœur. Sans la loi d'ailleurs, il ne peut plus être question de péché. Il ne peut non plus être question d'obéissance de la foi. Les lois de Dieu, ce sont les lois de la vie humaine. La foi sans les œuvres est morte. Et les chrétiens sans les œuvres fidèles sont morts eux aussi. Dans le passage que j'ai mis en exergue de ma communication, Jésus dit précisément que votre lumière brille devant les hommes de telle manière qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Question. Où sont? Comment sont définies les œuvres bonnes? Sinon, dans et par la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'une œuvre bonne? Comme le disait le vieux catéchisme de Heidelberg, Heidelberg n'étant pas un bonhomme mais une ville, je le dis en passant, de 1563, eh bien, une œuvre bonne, c'est une œuvre conforme à la loi de Dieu. Qu'il s'agisse de la vie personnelle, de la vie dans le célibat ou dans le mariage, de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie financière et commerciale, de la vie juridique, de la vie civique et politique, de la vie ecclésiale, etc., etc. On peut prendre tous les aspects de la vie humaine. C'est la loi de Dieu qui en définit les structures, les modes, les ordonnances et le sens. Il faut bien faire attention. Comment Dieu pourrait-il exiger de nous la fidélité et l'obéissance si sa loi ne définissait pas pour nous, en tout domaine de la vie, ce que doit être notre obéissance? Ça ne s'invente pas, l'obéissance. Ça se pratique. Et ça ne peut se pratiquer que dans l'écoute de ce que Dieu ordonne. Et ce que Dieu ordonne, c'est sa loi. Seule la parole loi de Dieu, qui, comme la parole évangile de Dieu, court de la Genèse à l'Apocalypse, est la règle des actions et les manières d'être de tous les hommes dans toutes les sphères de l'existence et de la création. La loi de Dieu, avec ses diverses ordonnances et ses divers commandements, reflète l'immuable caractère moral de Dieu, et ne sont donc ni arbitraires, ni passagères, ni modifiables, sauf bien sûr sur des points cultuels et cérémoniels, et cela par Dieu lui-même. Il y a des changements sur les points rituels, cérémoniels, cultuels, quand on va de l'ancienne disposition, celle de l'Ancien Testament à la nouvelle disposition, celle du Nouveau Testament. Mais c'est le Nouveau Testament qui nous le précise. Je disais à midi à notre historien, qui est ici, mais qui me dit, que lorsque j'avais 17 ans, j'ai fait la lecture de deux réformateurs, Jean Calvin, qui est français, qui est devenu genevois d'adoption, et puis alors, le seul des grands réformateurs ce que l'on appelle aujourd'hui la Suisse francophone, c'est Pierre Viré. Farel était français, Calvin était français. Pierre Viré, lui, il est né à Orbe en 1511. Il est mort d'ailleurs en France, à Nérac, là où résidait la reine de Navarre, Marguerite. Il est mort en 1571 en France. J'avais 17 ans quand j'ai lu Viré. Il y a des pages de Viré sur la loi de Dieu qui sont extraordinaires. De tous les réformateurs, je crois que c'est celui qui a le mieux parlé de la parole loi de Dieu. Il en a encore mieux parlé que Calvin. Pour moi, il est le réformateur qui a mis en lumière l'importance capitale de la loi. Non pas de la loi qui pourrait nous sauver. Nul n'a jamais été sauvé par la loi et par les œuvres de la loi. On n'est sauvé que par grâce. On n'est sauvé que par le sang de Jésus-Christ. On n'est sauvé que par le sacrifice unique et parfait accompli par le Christ sur la croix. Oui, bon. Mais ce que Dieu veut des hommes, et ce qui fait qu'ils sont déclarés pécheurs au départ, et ce que Dieu veut que soient les chrétiens une fois qu'ils sont sauvés par la foi, c'est de pratiquer la loi de Dieu. Dieu nous a donné pour toutes les choses de la vie, je le répète, pour le célibat, pour le mariage, pour la vie économique et financière, pour des tas de raisons civiques, politiques. Dieu nous a donné dans sa loi des ordres et devons nous conformer aux ordres que Dieu a donnés. Nous n'arriverons jamais à nous conformer parfaitement. C'est toujours le même truc. Il y a des gens qui prétextent la perfection pour faire retraite. Mais non, la perfection, il faut courir vers la perfection, même si l'on sait qu'on n'y arrivera jamais. C'est ce que disait saint Paul. Et il l'a dit à plusieurs reprises, il prenait l'image du coureur. Il disait, moi je cours, je regarde pas en arrière, je cours, je vais en avant. Il court vers Jésus-Christ, il court vers la perfection. Il ne l'atteindra jamais, mais il court vers. Et comment est-ce qu'on peut courir vers la perfection? Si l'on n'écoute pas, dans tous les domaines de l'existence, ce que Dieu a ordonné pour tel et tel domaine de l'existence. Je vous pose la question. Qui définira ce que c'est qu'une œuvre bonne? Alors, on inventera comme chrétien, là, comme ça, chacun s'inventera ce qu'il doit faire. Non, on n'a pas à s'inventer ce qu'on doit faire. On a à recevoir de Dieu l'ordre de ce qu'on doit faire. Quand l'Église ne proclame plus ou met la pédale trop douce sur la proclamation de la loi de Dieu en tout domaine, elle met la lumière sous le boisseau. Elle perd le mordant, même de sa prédication de l'Évangile. Elle désactualise la portée de la parole divine. C'est par la loi de Dieu que l'Église et les chrétiens fidèles peuvent proposer des solutions valables, contraires aux projets sociaux, politiques et culturels utopiques des humanistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Le seul bon itinéraire pour sortir des sentiers boueux et sanglants d'aujourd'hui et retrouver la route royale de la liberté et de l'honneur, c'est la loi de Dieu. Et le Seigneur appelle son Église à se confier en sa grâce toute-puissante pour changer le monde en étant le sel et la lumière. Alors nous nous trouvons devant un vaste programme. celui de la nécessité d'une prochaine reformation de l'Église. Et non pas de telle ou telle Église, mais de l'Église tout entière. Alors, on pourra redire en vérité, de nouveau, joyeusement, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.